Chers amis des cellules, bonjour. Il y a 15 jours, nous avions eu un enseignement sur les anges et cet enseignement avait suscité un certain nombre de questions auxquelles je voudrais répondre aujourd'hui. Il y aura deux questions qui retiendront notre attention. La première, est-il envisageable de penser une conversion de la part des démons? Est-ce que la miséricorde de Dieu ne pourrait pas provoquer une conversion des démons? Est-ce que Dieu ne pourrait pas leur pardonner? Ce sera une première question. Et la deuxième question, il est difficile de comprendre que des anges aient choisi de faire le mal. Si les anges ont une connaissance parfaite de la vérité, me demande-t-on, ils savent donc que Dieu est vainqueur, alors pourquoi certains anges ont-ils choisi le mal? Nous tâcherons de comprendre, du coup, cette deuxième question, comment ces anges ont-ils pu choisir le mal? Première question donc, peut-on envisager une conversion de la part des démons? Posons-nous la question, aurait-il un obstacle du côté de Dieu? En fait, il n'y aurait pas d'obstacle du côté de Dieu parce que Dieu est stable dans sa disposition, Dieu aime toutes ses créatures, Dieu veut le salut de toutes ses créatures et donc Dieu offre de façon éternelle son alliance. Ce n'est pas du côté de Dieu que la chose bloque. Dieu continue d'offrir son amour même aux damnés. C'est très étonnant, hein, ça, mais Dieu continue d'offrir son amour aux damnés parce que Dieu est amour. Dieu ne fait pas d'autre chose qu'aimer. Et donc, cet amour qui fait la joie des bienheureux, il fait aussi la brûlure des damnés, mais Dieu ne refuse son amour à personne. C'est donc du côté des démons que se trouve le blocage. C'est parce que d'eux-mêmes ils se sont fermés à l'alliance avec Dieu qu'il n'y a pas d'avenir. C'est parce que d'eux-mêmes ils se sont définitivement fermés à l'alliance avec Dieu qu'il n'y a pas de conversion possible. Leur choix est définitif et ils ne regrettent pas ce choix. Leur choix est définitif et il n'y a aucune once de regret, de désir de faire autrement chez eux. On n'est pas du tout dans la situation d'un étudiant qui aurait raté son examen et qui, en y repensant après coup, se dirait « il aurait fallu que je réponde autrement à la première question et j'aurais eu alors les points suffisants ». On n'est pas non plus comme dans un étudiant qui se dirait « en fait, je me suis trompé de filière, si je m'étais engagé dans telle autre filière, eh bien j'aurais pu faire ce que je voulais vraiment ». Les démons ont choisi de ne pas vivre l'amour comme Dieu le vit. Ils ont choisi de ne pas entrer dans cette alliance, dans la gratuité de cet amour, et ils ne regrettent aucunement ce choix. Mais pas dans le cas de l'être humain à qui on demanderait « mais si tu pouvais, est-ce que tu ferais autrement ?» Et c'est vrai que nous, êtres humains, ça nous arrive de nous dire « bah oui, si j'avais la possibilité de recommencer, bah je ne ferais pas comme ça. » L'ange dit « j'ai choisi cela ». Et c'est vraiment mon choix, et c'est vraiment mon choix éternel. Il regrette la souffrance qu'il éprouve, mais il ne regrette pas ce qui la provoque. Ce qui la provoque, c'est le refus d'aimer comme Dieu aime, et il ne regrette pas de ne pas aimer comme Dieu aime. Oui, c'est une situation de la personne qui dirait « je meurs de soif, c'est terrible ». On lui dirait « mais tu as une cruche d'eau à côté, désaltère-toi ». Et dirait « non, je ne veux pas boire ». Et définitivement, je ne veux pas boire. Eh bien, ce sera difficile d'être désaltéré, mais c'est le choix qui a été fait. Tu avais la solution, mais tu n'en veux pas. Comprenons aussi que la possibilité d'un choix définitif, c'est d'abord une grâce. Le choix définitif, c'est d'abord une grâce. C'est d'abord une grâce que Dieu nous fait à sa créature qui n'est pas de toujours à toujours, de lui permettre de prononcer dans le dessein de Dieu un oui, et un oui qui va être ferme pour l'éternité au point de pouvoir participer à la vie de Dieu éternellement. C'est d'abord un don, j'allais dire, vous voyez, c'est comme un ciment que l'on mettrait, et ce ciment que l'on a mis doit se solidifier justement pour que ce qu'on y a placé soit placé, disposé de façon stable. C'est vraiment une grâce que Dieu nous fait, c'est une aide qu'il nous fait, c'est un don extraordinaire qu'il nous fait. Et voilà que ce don peut être dévoyé. et au lieu d'être mis en place pour vivre l'alliance, eh bien, je l'ai transformé et je me suis mis en place contre l'alliance. J'insiste, ce caractère définitif du choix est d'abord une grâce. Un peu comme si on disait à un pianiste, eh bien, désormais, vous aurez la grâce de ne plus faire aucune fausse note. Vous n'êtes plus menacé par la fausse note. Et donc, le pianiste sera libre de son interprétation. Il aura une grande liberté, j'allais dire, pour interpréter la partition, voire pour composer, parce qu'il ne sera plus menacé par l'erreur de la fausse note. Voilà, ce caractère définitif du choix était en fait une aide pour nous donner cette liberté définitive d'aimer comme Dieu aime. Donc on comprend que le choix des anges mauvais, c'est bien leur choix qui provoque une damnation éternelle, que ce choix est définitif. Mais quand même, on se pose la question, est-ce que Dieu ne pourrait pas forcer ce choix définitif, puisqu'on sait, entre guillemets, qu'ils ont fait un mauvais choix? Est-ce que Dieu ne pourrait pas faire que, du fond de leur être, eh bien, finalement, ils veulent l'alliance? En fait, c'est une fausse bonne idée, et c'est même une très très mauvaise idée, une idée terrible dans ses conséquences. Parce que si Dieu forçait le fond de notre être, ça veut dire que notre liberté n'existerait pas. Dieu dirait en fait, ben, choisis, mais si ce n'est pas le bon choix, eh bien je transformerai ton choix pour que tu veuilles ce que je veux. Cette liberté n'existe pas. Or, si notre liberté n'existe pas, nous ne pourrons en aucun cas devenir ressemblants de Dieu. Image vraie, image ressemblante de Dieu, qui est liberté d'aimer. Pour que nous puissions participer à la vie de Dieu qui est liberté d'aimer gratuitement, il faut que notre liberté soit réelle. Si notre liberté n'est que factice, ou bien si notre liberté est forcée, nous ne serons pas image ressemblante de Dieu, et donc nous n'aurons jamais la possibilité de participer véritablement à sa vie. Imaginez que, par miséricorde, entre guillemets, Dieu force notre liberté, c'est en fait détruire la réalité de notre liberté, et c'est donc détruire la possibilité de la ressemblance avec Dieu, et c'est donc empêcher la communion avec la vie divine, c'est donc empêcher notre vie éternelle. Bien, maintenant la question de savoir est-ce que l'on peut comprendre le choix qu'ils ont fait. Comment ont-ils pu choisir le mal, et le mal éternellement, lorsqu'on se dit que cela mène à une éternité de souffrance? C'est qu'ils considèrent qu'il est pire de vivre l'amour selon Dieu plutôt que le refus de l'amour de Dieu. Je répète, c'est très étonnant, ils considèrent que ce serait pire de vivre l'amour selon Dieu plutôt que le refus de l'amour de Dieu. Il y a là quelque chose qui n'est pas pleinement rationnel. Il y a là une part d'irrationnel, il y a là une part de mystère que nous ne pouvons pas percer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a quelque chose de déroutant, même parmi les humains, quand un humain choisit sciemment le mal. Et vous savez que ce sont des choses parfois qui nous font cogiter, tourner en rond. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour qu'il ne fasse pas ça? Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire? Ou quelles circonstances aurait-il fallu éviter pour qu'il ne fît pas ce choix? Et on n'arrive pas à trouver un motif suffisant pour expliquer le choix qui a été fait. C'est qu'il y a une réalité de cette part d'irrationnel dans le choix du mal. Il y a vraiment une part d'irrationnel, ce qui signifie que notre raisonnement ne pourra pas l'expliquer de bout en bout, que ça va échapper à un strict raisonnement. Quand je dis strict raisonnement, c'est un peu l'examen de voici les profits à en tirer et voici les dommages à craindre de ce choix, et dans lequel on dirait, ben voilà, je trouve qu'il y a plus de profit que de dommages, et donc je choisis cela. Donc, il y a dans le cœur de l'être créé libre à l'image de Dieu en vue de sa ressemblance, quelque chose qui dépasse simplement cet examen. ce quelque chose est au cœur de notre libre arbitre et qui fait que justement nous ne sommes pas déterminés. Tout l'entourage, toutes les circonstances pourront nous orienter plutôt dans tel sens que plutôt dans tel autre. Il y a en nous cette capacité de pouvoir dire je fais ceci ou je fais cela et qui ne se limite pas au conditionnement qui est autour. Mais donc il y a une part qui va échapper à cette vision purement rationnelle du comptage des plus et des moins et du choix de là où il y a forcément le plus. On peut tirer deux conséquences de cela. La première conséquence, c'est que face à un acte mauvais, il y a donc une part d'irrationnel et donc il ne faut pas perdre toute son énergie à essayer de trouver une explication rationnelle d'un acte mauvais. On pourra comprendre des circonstances qui favorisaient, mais au fond du fond, il y a quelque chose qui nous échappera et qui vient toucher la puissance de liberté, la puissance de libre arbitre de la personne. La deuxième conséquence, c'est un émerveillement face à l'amour véritable. Il y a dans l'amour véritable quelque chose de merveilleux parce que justement, il échappe à la détermination, il échappe au déterminisme. Il y a quelque chose de gratuit qui s'est donné, qui a fait le choix de s'engager, qui a fait une confiance alors qu'il ne voyait pas tout, qui a eu une espérance alors que tout n'était pas forcément clair. Il n'était pas obligé que je t'aimasse, il n'est pas obligé que je t'aime. Il y a quelque chose de mystérieux, une gratuité qui jaillit, qui surgit, et qui surgit quand je suis l'être aimé en ma faveur. On parle parfois dans les contes de fées d'un filtre d'amour que l'on cherche, qui obligerait justement la personne à nous aimer, mais voilà que ce filtre d'amour est une pauvre caricature de ce surgissement extraordinaire, libre de l'amour véritable. Le filtre d'amour qui obligerait la volonté nous ferait jouer un rôle bien écrit, mais un rôle seulement. Le « je t'aime » véritable lui est infiniment supérieur parce qu'il n'est pas provoqué, manipulé. Il s'exprime du fond de l'être mystérieux de la personne et vient s'offrir à celui qui est aimé. Au terme de cet enseignement, retenons peut-être ces choses-là. Il n'y a pas de conversion de la part des démons parce qu'il n'y a pas de volonté de leur part. C'est un choix définitif qu'ils ne regrettent pas. Forcer ce choix, ce serait détruire la liberté. Détruire la liberté, ce serait détruire la possibilité de la ressemblance avec Dieu et le partage de sa vie. Enfin, peut-on comprendre ce choix qu'ils ont fait ? Pas totalement, tout ne s'explique pas seulement rationnellement. Il y a une part de mystère, il y a une part irrationnelle, une part qui n'est pas déterminée et qui vient du plus profond de l'être. Cette part qui vient du plus profond de l'être est aussi à la base là où devait s'exprimer la gratuité de l'amour. Je vous souhaite de bons échanges.